Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Alors voilà, donc ce qui retient notre attention cette semaine, ce n'est pas ce fameux projet de loi spéciale du gouvernement, une loi spéciale sans précédent au Québec, une loi qui accordera davantage de pouvoir aux forces policières d'intervenir sans barrière aucune, donc contre qui d'ailleurs? Contre la jeunesse québécoise. Et pourquoi? Parce qu'elle a dit simplement non. Jean Charest veut forcer cette nouvelle génération de dire non. Dénoncer ou dire non ici au Québec, ça sera bientôt interdit. Une nouvelle voie vers cette nouvelle démocratie que Jean Charest veut adopter par des lois spéciales. Donc pourquoi une loi spéciale? Parce que justement Jean Charest n'a rien à offrir d'intelligent. Alors qu'est-ce qui lui reste? La force de l'échec, la répression des lâches, si vous voulez aussi, la brutalité des ignorants, la violation des droits des plus faibles. Le gouvernement parle d'une seule voix, c'est ainsi que Jean Charest se défend, c'est ainsi qu'il se cache derrière les autres, c'est ainsi qu'il règle les problèmes de crise. Lui, il n'est pour rien et c'est toujours la faute des autres. L'ex-ministre, Mme Lynn Beauchamp, n'avait pas le choix de partir devant une tête aussi bornée que celle de Jean Charest. L'ex-ministre n'avait pas le choix, ou plutôt elle avait deux, si vous voulez, démissionner ou se jeter du troisième étage. Alors elle était chanceuse, elle avait déjà choisi de partir et même le discours de ses adieux était dicté par Jean Charest. Alors, vous comprenez peut-être que c'était un peu trop. Elle ne pouvait plus, la pauvre, elle ne supportait plus, la pauvre, d'être une marionnette sur une scène ou sur la scène improvisée de Jean Charest. Bref, donc, elle a levé les pattes et en espérant pour de bon. Si vous dites non à Jean Charest, il ne sera pas content, ce type-là. Donc, il n'aime pas d'être contrarié. Les années de son pouvoir, ils l'ont trop gonflé. Et le pouvoir, il ne peut plus. Donc alors, il faut le comprendre, la prochaine fois, libérez-le. Sinon, il se jettera, lui aussi, notre Premier ministre d'un troisième étage, peut-être même d'un quatrième étage. Imaginez-vous la face de notre Premier ministre exploser sur le sol, après la chute volontaire d'un troisième étage, ou plutôt même d'un quatrième étage. C'est pas très bon à voir de toute façon. Encore pire que ça, chère auditrice, chers auditeurs, ça sera de votre faute. Trop d'années de pouvoir, ce n'est jamais bon pour une personne. Alors, les prochaines élections, veuillez lui rendre un service à notre honorable Premier ministre, libérez-le de son poste. Voilà notre ultime appel de secours à notre Premier ministre, Jean Charest. Maintenant, je tourne le dos à Jean Charest et de toute façon, mon collègue Roland Cazès, qui va bientôt nous rejoindre sur ce plateau, il nous parlera de cette crise étudiante, mais pour moi, ce qui m'attire mon attention cette semaine-là en particulier, c'est que le Premier ministre du Canada, Stephen Harper, avait qualifié la synthèse d'un émissaire de l'ONU de condescendant et ridicule. Alors, on fait quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Nations Unies avaient envoyé un émissaire du Canada, au Canada pourtant, pour vérifier le fondement d'une plainte qui dit que un nombre de Canadiens n'aurait pas les moyens de bien s'alimenter. Il est vrai aussi que de telles missions sont plutôt destinées aux pays pauvres de la planète, mais jamais dans des pays industrialisés, riches et encore moins à un pays comme le Canada. Mais entre l'image et le réel, notre implication quotidienne dans la vie des gens, et en particulier la partie du milieu de la société, nous a rapidement concrétiser et confirmer l'immense inégalité qui se creuse profondément entre deux catégories d'historiens. D'ailleurs, nous ne sommes pas du tout, si vous voulez, impressionnés par le fait de voir ou d'entendre ici au Québec des familles qui ont du mal à s'alimenter, des personnes qui ont du mal à trouver justice dans notre système judiciaire, des citoyens qui ne peuvent plus et qui abandonnent tout simplement. Alors cet émissaire visite le Canada et après quelques semaines d'observation, de travail, d'analyse et de différentes visites, il vient à la conclusion suivante. Je résume, hein. Donc nombre de Canadiens sont trop pauvres pour se nourrir de manière décente. Le Canada a amplement les moyens de se doter d'une politique nationale de sécurité alimentaire. Il ajoute son inquiétude devant le constat réel d'observer cette inégalité apparente entre les riches et les pauvres. Attention maintenant, cet émissaire de l'ONU qui est juriste, il est professeur de droit international, un spécialiste des Nations Unies, ce n'est pas n'importe qui. Écoutez encore le témoignage de Mme Diane Bronson, c'est une directrice générale de Sécurité Alimentaire Canada. Après l'avoir accompagnée pendant cette mission au Canada, elle dit « Il fait un travail remarquable. Plutôt, il a fait même un travail remarquable. Je l'ai vu dans plusieurs des réunions qu'il a tenues. Il a fait de très longues journées, de vastes consultations. Il a posé des questions ultra précises aux gens qu'il a interrogés. Et vers la fin, Mme Bronson dit de balayer tout ça d'un verre ou d'un revers de main me semble inapproprié. » Alors, inapproprié, c'est le mot clé. Après avoir déposé son rapport, le gouvernement Harper l'a traité de ridicule, de condescendant. Voilà dans ce pays, celui qui dit la vérité est ridicule. Si vous adoptez la règle du mensonge, vous êtes apprécié. Sinon, c'est la guerre, les lois spéciaux contre vous, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, au lieu d'entendre le message et corriger la situation, ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On insulte l'autre, on l'intimide. Le Canada, après avoir entendu les déclarations de l'émissaire, sous-entendu, menacé. Donc, elle menace l'ONU de lui couper sa contribution. Et sous cette forme de pression, l'émissaire n'avait pas d'autre choix, le pauvre, que de s'excuser. S'excuser de quoi? D'avoir dit la vérité. Au micro avec vous ce matin, chers auditrices, chers auditeurs, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait soi-disant la surveillance civile de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Avec moi, mon collègue Roland Cazas, qui n'est pas encore arrivé au studio, il va nous parler de cette énorme crise qui secoue le Canada, le Québec. Alors, restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs, je reviens avec vous après notre thème musical.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup d'héros. Et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête. Combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Alors voilà, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs, je vous informe que vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission de Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors j'attends toujours mon collègue Roland Cazas qui va arriver encore au studio, j'imagine qu'il est coincé quelque part dans une bouche de métro. Et pour ça, donc, je reviens maintenant. Je préfère vous laisser peut-être entendre l'entrevue que j'ai eue cette semaine avec Madame Graciela Aladio. C'est une psychologue et elle était accompagnée de son patient. Il s'appelle Monsieur Pedro Montes Cortez. Donc, c'est un Mexicain qui a fui le Mexique après avoir été kidnappé, torturé dans ce pays où règne la loi des plus forts. Alors, il venait comme ça, sur un coup de tête, accident de parcours, je ne peux pas vous répondre sur ça, mais vous allez voir, une chose est certaine, c'est que ce réfugié est totalement renfermé sur lui-même, au point de porter un foulard qui cache son visage en permanence. L'agression première dans son pays d'origine l'a débalancé un peu trop même, et il pense que ses ravisseurs sont toujours dans ses trousses. Même rendu ici, d'ailleurs, à Montréal. Donc on parle ici de quelqu'un avec des troubles mentaux qui reprend, avec l'aide de son psychologue, Madame Aladio. Donc il essaie de reprendre, si vous voulez, petit à petit, la vie de nouveau. Nous avons dit qu'il porte un foulard en permanence, sans être dangereux ou plutôt menaçant, mais il est au contraire un homme d'une grande gentillesse qui souhaite un jour être un entraîneur de soccer pour les jeunes ici à Montréal. Ce qu'il faisait déjà, il faisait déjà ça au Mexique avant d'arriver à ce stade-là. Donc je vous laisse directement entendre ce premier passage que j'ai eu avec eux, avec les deux, dans mon bureau ici à Montréal. Alors voilà donc, bonjour Madame Graciela Aladio.
Aladio.
Vous êtes psychologue.
Psychologue.
Psychologue. Depuis plusieurs années, on vous a déjà invité sur le plateau, vous nous avez parlé un peu d'un patient. Et aujourd'hui, vous avez avec vous, vous êtes ici dans notre bureau, avec un de vos patients qui s'appelle Pedro Montes Cortez.
Cortez.
Cortez, pardon.
C-O-R. Voilà.
Vous le connaissez depuis combien d'années,
Non, c'est quelques mois, c'est
quelques
4
mois.
Ou 5 mois.
Et vous avez décidé de prendre son dossier, son cas, et le suivre.
Disons que, à la demande de le juge d'immigration,
oui.
Et il a eu un mandat pour faire une évaluation psychologique de oui. Monsieur Montes. Alors, je l'ai trouvé qu'il avait besoin de traitements plus spécifiques et je l'ai contacté avec un psychiatre qui parle espagnol, qui a pu les comprendre. Monsieur, depuis son arrivée à Montréal, il a été malade, mais jamais traité pour ses problèmes psychologiques, ce qui a empiré sa situation de plus,
de plus
en plus.
Oui. Alors, il vit tout seul, hein, c'est ça?
Il vit tout seul, ouais. Il n'a pas de famille. Ouais.
Vous allez nous expliquer quelqu'un qui il a énormément de troubles, pas des troubles, il a des problèmes sérieux. Comment il a pu rentrer au Canada avec ces problèmes-là? Parce qu'on veut être...
Je ne sais pas, non. Il est requérant, oui, de les statuts de réfugié.
Oui,
il est au tout début des démarches.
Oui, je comprends. Mais arrivé ici, j'imagine, vous me corrigez peut-être, vous connaissez mieux que moi, peut-être que lui, déjà, s'il demande une sorte d'exil ici au Québec, on ne sait pas c'est quoi, c'est-à-dire qu'il déjà, il a des... Il a déjà
Il a eu des séquelles, son traitement.
Voilà.
Évidemment, je ne peux pas dévoiler les détails du dossier, c'est très important.
Très important.
Mais, malheureusement, ce qui est arrivé, qu'à Montréal, il s'est fait agresser sur les transports publics.
Ouais.
Que cette agression, ça produit
ça
chez lui.
Ça encore plus, oui.
Ouais, c'est de toutes les souvenirs, voilà, de sa captivité, de son malheur qu'il a eu dans son pays.
Exactement, madame.
Alors, c'est évident que ces agressions d'aujourd'hui qui se multiplient, parce qu'il a un effet d'action-réaction, c'est évident qu'il est devenu beaucoup plus malade, jusqu'à le moment qu'il a été en traitement avec les médecins.
Ouais. Donc, vous êtes en train de dire que déjà, le monsieur, en arrivant ici, porte déjà des séquelles de l'autre côté de la frontière, si je ne me trompe pas. Et après ça, une fois arrivé ici, normalement dans un pays comme le nôtre ici, où une personne comme lui, supposément... c'est une personne qui a tous les motifs normalement pour accueillir quelqu'un et l'aider. Hein.
Oui, exactement.
Exactement. Alors c'est le contraire. Il était agressé et cette agression-là, on ne sait pas.
Au tout début, le monsieur était très content. Ils disent que c'est une ville. Même maintenant, il dit que c'est une ville tellement agréable, tellement.
Il adore. Enfin,
c'est vrai qu'il adore Montréal. Mais c'est les incidents qu'il y a eu qui s'est fait agresser et pas une seule fois.
À plusieurs reprises.
Sur l'autobus et après il a été
arrêté par des citoyens
qui évidemment je ne sais pas dans
des
individus que je ne connais pas, je n'ai pas eu de traces de ça, mais on a eu des témoignages à l'hôpital, il est allé à l'hôpital, etc.
Et une fois,
la première fois sur l'autobus, ils l'ont cassé 4 dents.
Oh my God.
Alors, et avec des contorsions partout, avec des bottes qui l'ont frappé à coups de pied, c'était terrible. C'était une victime probablement de je ne sais pas si une gagne ou quoi, mais c'est des personnes qui l'ont vu vulnérable.
Mais est-ce qu'il y a des accusations contre ces gens-là? Est-ce que les policiers ont pu identifier ou arrêter?
Je ne sais pas, parce que c'était juste en face de l'hôpital juif, et lui... Il a eu comme réflexe sauter de l'autobus. Il était par terre et puis quand il s'est levé, il a vu l'hôpital et il s'est dirigé directement à l'hôpital.
Il a voulu aller justement à l'hôpital, c'est ça?
Mais oui, ils l'ont soigné à l'hôpital. Il a resté 2 jours à l'hôpital.
Alors c'est malheureux le cas que vous avez avec vous aujourd'hui, madame. C'est que d'un côté, il y a une grande tristesse dans son dossier.
Il est très vulnérable.
Puis, à mes raisons, il y a une dégradation en continuité.
Ouais.
Je sais qu'il y a d'autres événements qu'ils ont accomplis. Est-ce qu'il a eu des soins à l'hôpital, un suivi aussi surtout?
Non, les suivis psychologiques, non. Il n'a pas eu. Il a une place. À l'hôpital, ils ont donné les soins nécessaires pour l'accident.
Mais sur le lieu, là, c'est tout. Superficiel, je sais pas.
Mais disons, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais il est sorti de l'hôpital 2 jours après.
Ouais.
Mais je vais vous faire remarquer que dans les systèmes, les personnes qui sont réfugiées, ils sont en statut particulier, et ils sont des soins dans une institution qui s'appelle Praida, qui était spécialement mis sur pied pour ce genre de personnes qui ne sont pas dans le système de santé complète, oui. Sinon qui sonnent spécialement, il y a des gens qui parlent la langue, etc., etc. C'est très bien organisé. Oui. Mais ce qui arrive, qu'il n'a jamais rencontré un psychiatre, finalement. Il a eu une référence d'une médecin pour l'hôpital Jean Talon, mais il n'a pas eu de suite. Mm-hmm. Pas seulement du côté, c'est pas une critique au système, c'est que monsieur, pour son anxiété et la situation psychologique, il restait un petit peu et après il fallait qu'il quitte. Oui. Alors c'est ça qui les perturbait. Alors personne ne l'avait vraiment pu engager. Mais maintenant il est en traitement formel, il prend tous les jours ses médicaments. Oui, n'est-ce pas, Pedro, usted toma los medicamentos todos los días?
Il dit oui.
Si.
Mais parce que c'est grâce à vous, madame.
Ben, grâce à moi.
Vous faisiez un suivi énorme. Vous avez pris ça à cœur et puis.
Oui, parce que. Je suis dans les milieux. Oui. Je connais des ressources et oui. j'ai eu les médecins surtout qui s'est impliqué parce que c'est un cas lourd que c'est pas
toujours,
tout.
C'est toujours grâce à vous aussi. Vous avez poussé un petit peu les choses un petit peu.
Mais oui, je l'ai accompagné, mais c'est ça. En tout cas.
Mais dans un
mais ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est sensibiliser et les autorités pour voir que ces cas-là, il va y avoir beaucoup. Ouais. Et puis, il souffre énormément.
Il n'est pas le seul aussi.
Il n'est pas le seul. Ouais. Et quand il monte au métro, dans un autobus, etc. Ouais. Mais j'essaye de l'expliquer à lui à plusieurs reprises. Continuellement, je travaille sur le fait de le déconditionner à la peur qu'il a quand il monte dans les transports.
Oui.
Parce qu'il a peur de se faire agresser.
Oui.
Vous comprenez?
Oui.
C'était pas une baffe qu'ils ont donnée.
Ils l'ont vraiment battu, là.
Ils l'ont battu pour lui casser les dents, et puis des contorsions. Il a eu mal dans les côtes et partout.
Mais je sais, vous avez mentionné comme quoi il était hospitalisé et tout.
Deux jours,
c'est quand même assez grave.
Et après, il a été deux jours aussi à Notre-Dame, c'est-à-dire que pour le garder...
En convalescence.
Je ne sais pas, c'est un autre événement. Il y a plusieurs événements au fur et à mesure, je découvre de plus en plus.
Ouais.
Mais par exemple, ils m'ont dit que... Ils m'expliquaient qu'il a eu... Dans un moment donné, une de ces incidents, les policiers du métro, il en avait deux femmes et un homme,
oui.
Et qui parlaient, ils ont cherché quelqu'un qui parlait espagnol.
Ah, c'est bien. Oui.
Alors, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas dangereux, que c'était juste. Ils ont demandé la question pourquoi il s'isolait de tout le monde.
Oui, il ne veut pas rester avec tout le monde. Oui.
Mais non, parce qu'il se sent menacé.
Oui, oui.
Alors. Tout le monde était aggloméré pour monter au métro et lui, il s'en va très loin parce qu'il a peur. Il se retire. Alors, je l'explique que peut-être que les autorités sont venues pour les protéger parce qu'on pense qu'il peut se suicider.
Exactement.
Il peut être une personne suicidaire.
Tout à fait, oui.
Ce n'est pas le cas. Mais c'est seulement pour se protéger. Alors, s'il est identifié et puis voit... C'est pas une personne dangereuse du tout.
Il touche pas une mouche. Mais pour vous, madame, c'est que pour la première fois, des agents d'STM, ils ont fait un effort, ils ont allé chercher quelqu'un pour traduire. Et une fois la communication s'est rétablie, là, ils ont compris comme quoi c'est une personne vraiment...
Il n'était pas ni dangereux, ni suicidaire. C'était quelqu'un qui s'isolait.
Revenons un petit peu maintenant aux agressions. Donc, il était agressé à plusieurs reprises. Malheureusement, il n'y avait pas un suivi médical. Ce n'est pas vous qui avez intervenu un petit peu.
Il a eu un suivi d'une femme médecin, d'une clinique de guide.
Une courte durée.
Non, lui, il va de temps en temps, mais il faut voir que ce n'est pas... un patient comme les autres.
Moi,
je sais que je dois aller et je vais aller chercher le médecin, je vais suivre. Lui, il va ponctuellement, mais c'est parce qu'il a établi une relation avec cette médecin qui les comprend et qu'il les laisse pas attendre 3 ou 4 heures. Alors, il les passe entre deux patients et il sait si Et il est sanctifié, il retourne.
Comment gagner sa confiance aussi?
Mais oui, mais c'est ça qui est établi. C'est pour ça que j'ai...
Donc, ce qui est malheureux, c'est ce que j'ai bien compris, vous me corrigez, c'est qu'il n'y avait pas réellement, je voulais dire, un suivi réel, et surtout une attention particulière.
Ça, oui, c'est, des fois, il a une intervenante qui m'a dit, je n'ai jamais réussi à les faire voir un médecin, par exemple, voilà. Parce que il disparaît de la salle d'attente.
Alors, il a une lecture différente de la nôtre.
Mais c'est ça, il attend un peu, mais il désespère, il angoisse, il devient claustrophobique, il se sent menacé, et il faut qu'il quitte. Alors.
Avant de conclure ce point-là, à votre avis, vous qui le connaissez depuis quelques mois, est-ce qu'il y a-t-il une fois où les policiers ont pu identifier les agresseurs? Parce qu'il était, on a dit,
non.
Il était agressé plusieurs fois.
Les chauffeurs d'autobus, c'était une femme, a téléphoné à la police, et la police est allée les voir à l'hôpital, mais sur place, lui, tout ce qu'il a fait, il s'est levé, il a traversé la rue, il est allé à l'hôpital. C'est ça qu'il me raconte, vous comprenez?
Mais à votre avis, est-ce que les policiers, à votre, je ne sais pas si vous avez une idée, est-ce que les policiers ont suivi son dossier? Est-ce qu'ils le voient? Ils essaient de, ils ont montré une parade de photos, les agresseurs.
Non. Est-ce que parce que Pedro, quand vous avez été agredi dans l'autobus, vous êtes allé à l'hôpital après?
Non.
Est-ce que la police est revenue?
Quand on m'a agredi?
Cuando le rompieron los dientes, así, ¿qué
me
hizo
bajé
usted?
Del camión y le digo que me pasé a San Catherine, la avenida. Esa.
Del otro lado.
Y luego que me regreso y ahí que veo que ahí estaba el hospital y ahí me metí.
Sí. Oui, il a dit que il a traversé la rue et c'est quand il a vu l'hôpital, il a rentré.
Pero no llegué a urgencias, oiga, nunca. O sea, no llegué luego, porque vi los toilets. Y cuando me vi en ese mirror, que veo que todo estaba así sangrando, la cara.
Quand il a rentré, il s'est vu dans la vitre là, et puis il s'est rendu compte qu'il était tout plein de sang.
Plein de sang, oui.
Et il est allé à la toilette, il s'est lavé un peu.
Oui. Mais luego, caminé por el corredor, son como 200 metros, oiga, el corredor así, el derecho. Y el urgencias está en el sous-sol, que le llaman.
Sí. Il a marché dans, comme 200 mètres là jusqu'à il est allé. Pero quand estuvo usted en l'hôpital, la policía fue a verlo para saber qué había pasado?
No, nunca.
¿No?
No.
Nunca le preguntaron, pero es que ellos no se enteraron que usted estaba en el hospital.
Pues yo no lo puedo saber, oye.
Okay. Oui. Il ne peut pas savoir ça.
Ça va. Mais ça veut dire que, parce que dans un cas de quelqu'un qui est agressé, normalement, les policiers vont ouvrir un dossier, puis ils vont suivre jusqu'à ce qu'ils vont trouver.
Mais
dans son cas, lui.
Normalement, c'est la police, c'est l'hôpital qui va
aviser
les policiers. Dans ce cas-là, un cas d'agression.
Mais dans ce cas-là, il ne sait pas.
Non. Non, et puis là, la barrière de la langue, qu'évidemment, c'est...
Oui, mais ce n'est pas une raison. Ils ont été agressés. Normalement, le rôle de l'SPVM, par exemple, sur l'île de Montréal, c'est de s'assurer, par exemple, qu'il y ait un suivi dans une telle agression.
Mais les chauffeurs, c'est une femme, et c'est elle qui a téléphoné à la police.
Oui. Non, mais ce qui nous dérange, c'est qu'il n'y a pas de suivi, parce que si, par exemple, un autre citoyen X ou Y qui était agressé, et on va tout faire pour retrouver l'agresseur. Alors, dans le cas de monsieur ici, vulnérable comme lui, c'est-à-dire qu'il y a toute une catégorie de citoyens que les SPVM, malheureusement, ils ferment le dossier rapidement. D'ailleurs, on avait aussi un cas comme celui-là juste la semaine passée.
Oui.
Maintenant, revenons, madame.
Mais lui, il n'a jamais été à la police pour les dénoncer le lendemain, par exemple, parce que non plus il n'a personne.
Il ne sait pas.
Il ne sait pas comment est-ce qu'elle est la procédure. Il n'a personne qui l'a dit non plus. Ouais. Il n'a personne qui l'accompagne non plus.
C'est ça.
C'est-à-dire c'est un homme seul qui. Il m'a dit l'autre jour, il m'a dit, Madame, vous ça fait longtemps que vous êtes au Québec. Je dis oui, ça fait 46 ans. Ouais. Il me dit parce que moi. J'apprends tous les jours, mais à force de mes erreurs.
De mes erreurs?
Mais oui.
Quel genre
parce qu'il se trompe, il se trompe, il se trompe, il prend un autobus en sens contraire.
Mais c'est ça les erreurs, parce que je le vois devant moi, et vous l'avez même vous décrivé, c'est un homme
pacifique.
Il ne peut pas faire une mouche pacifique.
Exactement,
mouche,
et hein. Les psychiatres ont dit la même chose.
Tout le monde
c'est pas quelqu'un qui va être en danger pour la société.
Pas du tout. Pas du tout.
Non.
Écoutez, juste,
et ils ont la chance juste de se traiter,
oui.
Et il va pouvoir se rétablir et travailler et être utile pour la société.
Oui. Avant de revenir sur la, parce que là il vient juste dernièrement, je vois la date du moment de la
mois d'avril.
Une infraction ici, le mois d'avril, il a reçu aussi.
Non, le mois de mars.
Oui, le mois de
le
mars.
4 mars.
Oui, c'est-à-dire le 4 mars, il reçoit aussi une contravention de la SPVM, ça?
Oui.
De la SPVM, quand même, d'un montant de $334. Alors, on va juste faire une petite pause et on va revenir parler
oui.
un petit peu de ça et sur le cagoule, là, parce qu'il
oui,
y a une cagoule
voilà.
sur lui. Une seconde. Merci. Donc, voilà, rebonjour. Donc, je vais reprendre avec madame... Alors voilà, bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Vous avez écouté un petit peu la première partie de ce témoignage de cette victime, Monsieur Pedro Montez Cortés. Et je vous informe aussi que mon collègue Roland Casas il vient de nous rejoindre au plateau. Il va nous parler à la fin de cette émission un petit peu de un peu de la crise qui secoue le Québec présentement. Alors je vous laisse. Peut-être je fais une petite pause musicale si vous me permettez. Après ça, on va revenir. À la seconde partie de ce témoignage de Madame Aladio et son patient, M. Pedro Montez Cortés. Restez à l'écoute.
Peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Donc voilà, rebonjour. Donc je vais reprendre avec madame
Aladio.
Graciela Aladio, qui est psychologue et qui suit le cas de monsieur Pedro Montz, qui est d'origine mexicaine, c'est ça?
Oui.
On va juste reprendre le cas, c'est ce qui nous touche aujourd'hui aussi, ce que le monsieur a été arrêté dans la station de métro, laquelle?
Et Berry de Montigny.
Berry de Montigny. Et puis, les policiers du métro, ils ont fouillé son sac.
Oui, d'abord, ils sont venus le chercher. Pedro, cuéntenos, comment passó el incidente ese cuando el de la multa, míreme, ¿me entiende? El Señor quiere saber desde el principio qué es lo que pasó.
Yo siempre me aíslo.
¿Pero usted venía en el metro?
Yo me aíslo, y yo venía en la esquina, ahí en las esquinas.
¿Adentro del tren?
Sí, adentro del tren. En las esquinas hay lugares para una persona nada más.
Bueno, lui, il dit que il a l'habitude de s'isoler quand il vient au métro,
oui.
Dans le métro, et il prend les sièges de coin là, oui. Pour une seule personne.
Oui. Pourquoi?
Y yo venía así, no venía durmiendo ya, venía así recostado ya, así, ya le dijo.
Él se reposé contra el mur de,
sí, yo venía
de
así,
la chaise.
Yo venía así ya, pero traía el foulard ya.
Mais il avait mis son foulard.
C'est ça. Donc il met toujours, lui, là, on va parler de ça aussi après. Donc il mettait toujours un foulard sur le visage, c'est ça?
Oui. Et c'était l'hiver. Il porte une tuque,
oui.
Un polar,
oui.
Qui cale jusqu'à
le front.
Les fronts.
Plus le foulard.
Plus la casquette de tennis,
oui.
Parce que la casquette de tennis, elle sert à tenir le foulard en place.
Foulard en place,
oui. Je l'ai le nœud.
Alors, il fait un nœud,
oui.
Sous la casquette de tennis et il met son foulard pour cacher son
visage.
Nez.
Tout le visage.
Tout.
Oui.
Tout ce qu'on voit, c'est les yeux.
Oui. Mais vous êtes plus spécialisé que n'importe qui ici qui peut se prononcer sur ce mot-là. Pourquoi, à votre avis, le monsieur porte toujours ce foulard-là?
Bon, il dit qu'il a peur.
Il a peur.
Qu'il est fait pour se protéger.
Oui.
Je dis, protéger de quoi? Des gens,
oui.
Qui viennent les frapper.
Okay.
Parce qu'il dit qu'ici, les gens ne le respectent pas. Ils se mêlent de lui, de ses affaires,
oui.
Et ils viennent les provoquer.
Alors, il faut savoir aussi que lui, il porte avec lui une peur de son pays d'origine. Et arrivant ici, il pense, ou plutôt, si je me trompe, me corriger, en mettant le foulard, il est plus rassuré à l'intérieur.
Oui,
de lui.
Oui, il
donc
se sent protégé.
Rassure, oui.
Il se sent protégé, il pense qu'il ne serait pas identifié.
Identifié, voilà.
Okay. Alors je lui dis que le foulard, ce n'est pas une protection.
Ouais.
C'est tout au contraire.
Ouais.
C'est lui, il provoque chez les gens, ouais. La peur.
Non, mais lui, c'est pas ça, lui.
Non,
lui,
mais on l'explique.
En le portant, il va sentir plus à l'aise, plus sécurité.
C'est juste avec les foulards qu'il se sent protégé.
C'est ça, voilà.
Pedro, expliquez-nous pourquoi usted lleva puesto el foulard.
Para protegerme de la gente que me. ¿Cómo se dice? Para protegerme de la gente que me, pues es que yo no quiero volver otra vez, oiga, a que me vuelvan a levantar de la calle.
Ah.
O sea, la gente, que me vuelvan a hacer.
Il a peur de gens.
Oui.
Et il a peur que il vienne de nouveau les kidnapper.
Kidnapper, c'est ça.
Parce
voilà.
Que lui, il a été kidnappé,
voilà.
Par les dos. C'est une voiture noire qui est arrêtée.
Au Mexique, ça?
Oui, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une voiture.
Et voilà. Pour ça, me escondo, para que no me vean.
Alors, il se cache,
oui.
Pour qu'on ne l'identifie pas.
My God. C'est-à-dire, vous voyez comment ça vient de loin. Hein,
ça vient de loin.
Très loin.
Ça réveille tout, ouais. Ce qu'il a vécu. C'est-à-dire,
ouais.
Que c'est comme s'il serait continuellement en éveil.
Mais malheureusement, tous les gens qui l'aperçoivent ici, ils ne voient pas ça, ils ne savent pas cette
histoire-là.
Non,
ils ne savent pas. Alors, c'est ça que je
l'explique. Et sur ça, ils vont le juger autrement.
Oui. Ils se sentent jugés et ils disent des choses comme il ne faut pas juger les gens pour son aspect extérieur.
Exactement. Ouais, ouais.
Je suis une bonne personne.
Ouais, ouais.
Mais même s'il est comme ça, avec son foulard, ça ne veut pas dire qu'il c'est un malfaiteur.
Oui, bonjour.
Mais je l'explique. Qu'il a des mœurs,
oui.
Et puis il a des choses. Et même dans les films, on,
oui.
Voyait toujours que
c'est
les bandidos,
oui.
Moi je dis les bandidos pour qu'ils comprennent,
oui.
Bien,
oui.
C'est celui qui vient avec le visage caché,
oui.
Et il va sortir un revolver.
Oui.
Et quand il est sur le métro, et les gens ils vont penser peut-être il est armé, peut-être qu'il va sortir
les
un revolver.
De lui,
et évidemment qu'ils,
oui.
Sont. Je l'explique.
Mais
que tout le monde, il va avoir peur de lui.
Mais malheureusement, Madame Aladio, c'est tout à fait le contraire. C'est
exactement.
Un gars qui est vraiment de paix, qui cherche que la paix.
Il cherche la paix. Il dit, je n'ai peur rien à personne.
Ouais.
Pourquoi il vient me taper?
Ouais,
alors, à chaque fois qu'il s'est fait arrêter par la police, et il rentre en panique.
Oui.
En panique, en panique. Alors il prend pas pour un certain temps ni le métro ni l'autobus, oui, et il marche. Il marche des kilomètres et des kilomètres par jour.
C'est comme une fuite. Il fuit un certain, je sais pas.
Oui. Il fuit. Il a peur. Il a peur.
Monsieur, y para protegerme, monsieur, de la persona que me golpeó en el autobús. Por eso lo uso. Porque dice, no sé quién fue la que me agredió.
Para protegerse, pour se protéger de la personne qui l'a frappé sur l'autobus.
Oui, oui.
Ils disent, je ne les connais pas. Et oui, peut-être.
Ils l'ont attaqué comme ça.
No sé quién fue.
Oui. Pourquoi pensez-vous qu'ils l'ont attaqué?
Por mi. No sé, porque soy diferente a esa persona. Me refiero a que yo soy de piel café, o sea, de piel.
¿Y él cómo era?
Era de tez blanca.
Él dice que peut-être c'est.
¿A causa de su peau?
A causa de la couleur de su peau. Oh, que el otro, él était très blanc, y lui, il est un peu plus foncé.
Mais ça, c'est une lecture à lui, donc.
Mais oui, c'est une supposition, ouais, parce qu'il n'avait pas de raison. Ouais. ¿Usted considera que no tenía otra razón la persona por agredirlo? ¿Usted no le había hecho nada?
No, nada. Nunca le hice nada, y ni siquiera lo puedo tocar, es desgraciado.
No.
Oui. Mais madame Aladio, je veux savoir, maintenant, en revenant avec les agents d'STM.
Bon,
les
agents eux, d'STM, ils l'ont pris, oui, ils l'ont amené en haut, menotté.
Ils l'ont menotté, il n'avait rien fait. Il était assis dans un coin avec le foulard.
Ouais.
Là, ils vont aller vers lui, ils vont le menotter.
Attendez. Oui. Pedro, usted estaba sentado, recostado, no estaba haciendo nada, como durmiendo, pero no dormía.
No dormía yo.
¿Y qué es lo que pasó?
Y me fijé así que una persona, la persona que iba enfrente, en faz de mon persona, ya ve como si conozco un poco.
Sí.
Entonces, esa persona que venía enfrente de mí era un hombre que se pasa del otro lado de la puerta, oiga, no de la puerta donde yo venía, sino del otro de la puerta, en la otra que se pasa, y él fue, porque yo no lo vi, pero él fue el que agarró, y la palanca, que la baja así, oiga, que la baja, y todos que se bajan, oiga, despavoridos, dígale.
Sí, sí.
Ah. Lui, il était comme ça, tranquillement, reposé.
Oui.
Et
dans le métro ou dans la voiture?
Dans le métro.
Oui.
Il a en face de lui un homme assis qui s'élève, qui se va vers la porte et il tire
l'alarme. Oh my God. Pourquoi? Parce qu'il a vu
le monsieur avec les foulards.
Oh my God.
Il a eu peur.
Il a commencé à gritar et à dire.
Et qu'est-ce qu'il gritait?
Non, en français.
Il criait.
Et que se bajan toda la gente.
Alors les gens, ils se sont précipités dehors.
Y él, desde ese lado donde estaba, que me empieza a señalar así, con el así, que le hace así, con el dedo que me señala a mí, y me empezó a decir así de insultos, o sea, yo ni le entendía, en francés.
Él, de loin, il le señalé, il le pointé, oh, que pointé, c'était lui, et il le disait des insultes, des choses.
Et pourtant, il n'a rien fait.
Rien, il était assis.
Oh my God.
Mais les gens, ils ont eu peur.
Yo permanecí, sentado, ahí seguía.
Y lui, il a resté así.
O sea, yo volteé así, que digo. Y yo dije, ah, sí, dígale, yo, el que nada. ¿Cómo dice?
El que nada hace, nada teme.
El que nada debe, nada teme, oiga, dígale.
Claro. Il dit, moi je n'ai pas bougé, j'étais assise là.
Il n'a rien fait pour moi.
Il dit, je n'ai rien fait. Il disait, c'est lui qui n'a rien fait, il n'a pas peur de rien.
Exactement.
Mais là, qu'est-ce qui passe? Qui le sapote del banco?
Et là, il, sans que je me diera cuenta, c'est qu'il habla, oiga, con les policiers, eran como cuatro.
Ah, et là, lui, il parle avec les policiers.
Il a dit une version policier.
Mais je
n'ai pas rendu compte. Mais quand je regarde comme ça, je le vois parler avec les policiers.
Yo venía así recargado, yo seguí así recargado.
Et lui, il a continué à être comme ça.
Ya cuando me di cuenta, oiga, dígale que ya cuando me di cuenta. No le va a decir.
Quand il s'est rendu compte,
tenía dos mujeres, oiga, policías, apuntándome así, oiga, así.
Il avait deux policiers avec un revolver à la main.
Sí.
Pointé vers lui.
Oui.
Sí, como si fuera yo un delincuente, oiga.
Comme il serait un délinquant.
Et lui, comment il a réagi quand il a vu les poils?
Qu'est-ce que vous avez fait? Qui hizo usted, Pedro?
Yo traía una bolsa, oye, una bolsa.
Así. Y la porté en...
O sea, una bolsa así grande, un saco así mis pies, en mis piernas. Y fue que me la arrancan así y que me jalan y así del
y lo han enlevé el sac qu'il y avait, oui. Y lui il avait sur les genoux les sacs, ils l'ont jeté les sacs et ils l'ont pris comme ça dehors.
Y así que me pone ya así contra la pared
y là il l'a mis contre le mur.
Y ahí fue cuando me empezó a dar así atrás, acá en la espalda, así, me empezó a dar
con el puño. Y le comencé a le frapper.
Entonces
le
di coup.
Y si yo que le digo, yo le dije, si no pongo resistencia, ¿por qué me golpea? Y
me dice, je ne fais pas de résistance, pourquoi vous me frappez?
Ah, my God. Mais là, il parlait quoi, en español?
En español.
Ouais. Y
¿Las mujeres no hablaban español?
No hablaban.
No, persona parla español.
Y ya oía que me ponen las esposas, así.
Y le minote, ¿es eso?
Sí.
Y que me suben caminando los escalones para allá arriba.
Y le, le monte tous les escaliers vers le haut, oui.
Y le minote, ¿eh?
Y me llevaron ahí al local donde están los policías.
Y lo han amené dans un local où sont les policiers.
Oui, oui.
Y ahí mis cosas, oiga, sacaron todas mis cosas y que las avientan ahí al suelo. Y
ahí son. Y le, es que.
Y yo me fache.
¿Cómo es que lo han pris une par une?
¿En qué?
¿Cómo las sacaron las cosas?
O sea, sí, ¿cómo se dice? Atolondradamente, oiga, así las aventaron en el suelo y...
Ah, ils ont jeté par terre tous ces affaires.
Toutes ces affaires qu'il a.
Ils ont vidé les sacs.
Ils ont vidé le sac par terre, oui.
Y yo le dije, ¿qué no sabe respetar? Son
ils disent, pourquoi vous ne me respectez pas? Son mes affaires à moi.
Mais ils parlent toujours en espagnol. Alors, j'imagine que eux, ils comprennent rien, c'est ça?
C'est ça.
Mais ils ont commencé, ils ont agi pareil, là.
Mais oui, mais oui. Et después?
Y ahí que sacan la navaja.
Pero ahí fueron... ¿Violento con usted o no?
Sí, me pegaron.
¿Quién le pegó? ¿El que hizo esto? ¿El que escribía o otro?
No, otra. O sea, otra de las mujeres.
Ah, ¿las mujeres le pegaron?
Sí. Porque yo seguía hablando y...
Y continúa a hablar.
Entre eux.
Non, lui continue à parler mais en espagnol, ah, et personne ne les comprenait.
Mais est-ce qu'ils ont enlevé à un moment donné son foulard? Comment ils l'ont...
Le sacaron su foulard?
Sí, me lo quitaron.
Sí.
Luego me lo dieron.
Pero oui, lo enlevé, me après lo retorné.
Todo eso, y me manosearon todo, y me sacaron, la aventaron así, mis. Esta la aventaron así, así.
Y lo enlevé la jaqueta, lo jeté, lo touché partout, y cherché des armes.
Mais
c'est l'imbécile qui a dit qu'il était armé.
Non, mais c'est pas une raison, il a rien fait.
Mais
madame, elle a dit, je veux savoir, quand ils l'ont frappé, et tout, parce qu'ils l'ont frappé, il a dit qu'ils l'ont frappé, ils ont donné plusieurs coups. Est-ce que vous pouvez lui dire, est-ce qu'en Mexique, il était traité comme ça, avec les autorités mexicaines?
Est-ce qu'en Mexique, usted hubiera sido tratado de la misma manera?
Así, de esa forma?
Sí.
No, dígale que no.
No.
Jamais.
Dígale que... No, dígale que los problemas...
¿Usted ha tenido problemas así con la policía?
No, nunca.
No.
C'est-à-dire le comportement des agents mexicains, ils sont beaucoup plus que le nôtre.
Je ne sais pas.
Y dígale a él. Dígale que en México hay un policía ahí donde están los torniquetes. Ahí donde pasa uno ya.
Sí. Para... Dice que en México, au métro, là où on passe,
oui.
La barrière, oui. Il a toujours un policía.
En todas las estaciones del metro, en todas las estaciones.
En todas las estaciones de métro, il a le
même. Je pense au traitement.
Pero como él dice... Si en el metro la policía en México lo hubiera tratado así, a golpes y a...
¿Así a golpes? Así como... No.
No.
Porque hubieran llegado y me hubieran
Bueno, pero usted hubiera hablado en español.
En mi idioma.
Claro. El problema es la barrière de la langue.
Donc c'est quand même ils se sont humiliés ici. Il y avait une sorte d'humiliation ici.
Oui.
Oui. OK.
Mais après ça, después de eso, ¿qué pasa? Lo tocaron, vieron que usted no tenía ningún arma y ¿qué le dijeron?
Ah, me dijeron, mira, o sea, me dijeron en francés, dijeron, mira, dice, mira, que agarra el cuchillo, ese.
La canif.
Dice, mira, por traer esto, te vas a pagar esta man que me le dice, vas a pagar.
Tu vois, alors, pour apporter ça.
Non, attends, pour que les gens comprennent, parce que là.
Ça, c'est la petite canif.
Donc, quand ils ont fouillé son sac et tout, ils ont tout mis par terre, il y avait un petit canif qui est tombé.
Une petite canif de gendre, celle qui ont la croix de Suisse.
Oui, ouais, le petit là.
Le petit.
Ils ont trouvé ça sur lui.
Oui, c'est qu'il a un tournevis et qu'il a une tire-bouchon.
Ouais, tout le monde ont ça sur lui. La voilà. Gens, moi, j'ai ça. Un sur moi, oui.
Bon. C'est ça. Oui. Et il a pris, il a dit, tu vois ça, à cause de ça, tu vas payer cette amende. Je vous fais remarquer que les policiers ont marqué la peine minimale de 300$ plus 134. Oui. Ça ferait au total 434, mais oui. Il a écrit 334, c'est-à-dire qu'il n'a pas additionné les 100$.
Oui, mais récemment, mais quand même pour le ici la description de l'infraction, avoir sur soi un couteau dans le métro.
Oui.
Mais il avait premièrement c'est pas un couteau.
C'est pas un couteau, c'est
deuxièmement il avait dans son sac.
Et troisièmement il a retourné. Monsieur Cortés est sorti de Berry de Montigny avec le même canif qui a rentré.
Avec le canif. Et mais malheureusement il est parti quand même avec un constat d'infraction de 34 $. Comment vous jugez ça, madame?
C'est exagéré.
Hein?
Moi, je pense que d'abord, ce n'est pas un couteau. Le comportement de la police a été exagéré.
Oui.
C'est
pas exagéré, c'est injuste. Ils ne devront même pas lui donner ça, madame.
D'abord, il a cru à l'autre personne qu'il a fantasmé qu'il avait un revolver, mais il n'avait pas aucune attitude agressive de la part de M. Cortés, c'est qu'ils ont cru à l'autre.
Oui.
Parce que c'était un blanc.
Ils ont voulu faire tout pour trouver quelque chose.
Il aurait pu l'amener sans...
Oui.
Et je trouve que c'est correct que la police vérifie quelqu'un quand il a une doute.
Tout à fait.
Mais il a tout un comportement...
Le respect, madame.
Il reflète un comportement qui n'est pas agressif du tout. Une personne calme qui est sûre d'avoir rien fait, il doit avoir un petit peu plus de professionnalisme pour détecter qui c'est un agressif et qui ne l'est pas. Elle suppose seulement que c'était parce que l'autre avait dit il doit y avoir un revolver, mais il n'a rien vu.
Avant de passer à la troisième période de cette entrevue, vous allez voir aussi qu'il n'est pas le seul. Lui, aujourd'hui, il se prononce par l'intermédiaire de vous, mais il y a d'autres cas, madame, sur l'île de Montréal. Il y a énormément de personnes comme ça, malheureusement, qui souffrent. On prend juste une seconde, on va revenir.
Voilà donc, rebonjour chers auditrices, chers auditeurs. Malheureusement, on ne peut pas passer la troisième étape. De toute façon, tout ce qui a souhaité Monsieur Pedro Montes dans ce dernier passage, c'est de passer un message, si vous voulez, à tous les citoyens, surtout les résidents de Montréal, de ne pas juger rapidement les gens. Donc voilà, c'est son message. Et maintenant, je profite du temps qui nous reste. Je passerai la parole directement à mon collègue Roland Cazès qui vient de nous rejoindre au studio pour lui demander justement qu'est-ce qu'il se pense vraiment de cette crise qui bascule, qui bouscule et qui fait un petit peu mal au Québec.
Moi, il y a des choses que je veux mettre tout de suite au point. Il existe un livre que tout le monde peut avoir accès à ce livre qui s'appelle université.com et vous allez avoir tous les renseignements.
Les renseignements de quoi?
La première des choses.
Oui.
On va commencer par dire que le ministre nous a raconté des salades. Pour le premier ministre. Alors, moi, je vais vous dire que l'université gratuite pour tout le monde coûterait 500 millions. Pas plus que ça. À l'heure actuelle, il prétend que c'est les bourses qui coûtent ça. Alors moi, je veux lui demander si c'est les bourses ou bien les prêts et bourses. Parce que ça endette chaque étudiant de 25 000 $ en partant dans la vie.
Ouais.
Alors ça, c'est une charge. Comment voulez-vous que cette personne-là puisse fonder un foyer, avoir des enfants, acheter une maison ou quoi que ce soit? Il ne peut pas, il a déjà une dette de 25 000. Il n'est pas solvable automatiquement. Savez-vous combien, parce que vous savez qu'avant les compagnies faisaient leur recherche et développement.
Oui.
Aujourd'hui, c'est l'université qui fait ça et ça rapporte au-dessus de 1 milliard pour la recherche. Mais 1 milliard qui revient au gouvernement.
Oui.
N'oubliez pas ça. Et des fois, c'est bien plus. Mais déjà...
Ça veut dire que les universités font du profit, c'est ça, tu veux dire?
Ben oui, justement. Savez-vous que Iris a fait une étude, et c'est Iris qui a prouvé que ça coûterait 500 millions l'unité gratuite, l'université gratuite.
C'est qui ce Iris, monsieur?
Iris, c'est un organisme qui fait des enquêtes, qui fait des recherches, oui. Et qui fait des calculs et autres.
Okay.
Alors, moi, je vous invite à prendre tout de suite ce livre, université.com, écrit par Éric Martin puis Ouellette.
Oui.
Et c'est très important, parce que vous ne vous ferez pas chanter des pommes et vous ne ferez pas envoyer des salades par des ministres qui veulent contrôler la patente.
Oui.
Parce que là, vous aurez tous les renseignements sur les coûts.
Ça, on l'a compris.
Ouais.
Mais est-ce que pouvez-vous nous dire un mot sur la loi spéciale? Parce que moi, j'ai rien dit.
Dis qu'il y a un paquet d'ignorance sur cette loi.
Oui.
On voit que Mme Courchen traîne de la patte. Le ministre est absent. Enfin, bref, tout se fait par d'autres. Comme d'habitude, il fait faire les jobs par les autres. Il est complètement absent. Moi, je prétends une chose. J'ai passé toute la nuit à écouter ça. C'est un vrai for-all. C'est le... Excusez-moi, avec tout le respect que je dois à cette institution, c'est le bordel. Et je vous dis une chose, ce sont des gamins qui jouent avec des lois et ils sont dangereux. Par contre, j'invite tout le monde à réfléchir et à penser aux syndicats, la FTQ, la CSN, tous les syndicats des professeurs et tout ce qui s'ensuit. Sortez dans la rue. Commencez à dire au gouvernement qu'il a abusé. C'est pire que des lois sur les mesures de guerre.
Oui.
Les mesures de guerre, soi-disant, c'était des révolutionnaires, oui, mais nos étudiants ne sont pas des révolutionnaires. Nos étudiants veulent une négociation. Ce qu'ils demandent à M. Charest depuis le début, dont il ne s'est jamais mouillé, il n'a jamais trempé le pied, il a toujours donné des ordres aux autres d'aller faire les jobs.
Il n'a jamais tendu la main pour un
étudiant. Jamais. Ouais. Et je comprends la ministre qui a démissionné. Elle a démissionné pourquoi? On lui a fait dire ce qu'on veut, là, mais elle a démissionné, elle ne veut plus rien savoir, ni du Parti libéral, ni quoi que ce soit, ni de la politique, c'est fini, elle a sa purge totale, elle a été écœurée. Ouais. Je comprends qu'elle soit...
Elle ne pouvait plus, quoi, je comprends.
Enfin, je ne serais pas vulgaire ni méchant.
Ouais.
Je sais que des fois, on peut dire des mots sans les réfléchir, on peut faire des erreurs.
Ouais.
Madame Courchen en a fait d'abord.
Ouais.
Mais enfin, on va passer là-dessus. L'erreur humaine et puis la façon de parler peut créer un problème des fois, puis on peut être catalogué. Mais je vais vous dire une chose, ce sont une bande d'ignorants qui essayent de sortir une loi, qui sont incapables de pouvoir la faire eux-mêmes et qui préfèrent mettre des chapitres et donner en plus de ça donner le plein pouvoir aux policiers, ça c'est dangereux.
Oui, mais de toute façon, j'aurais aimé vous poser la question, on n'a pas de temps, à propos de l'influence de Jean Charest sur les citoyens, parce qu'il y a certains citoyens qui sont malheureusement influencés un petit peu, mais qu'est-ce que vous voulez.
Il y a des libéraux qui
excuse-moi, Roland.
Malheureusement,
c'est tout le temps qui nous reste. Alors, je profite pour remercier Madame Graciela Aladio, psychologue, de ce souci porté à l'égard de cette victime. Je remercie aussi Monsieur Pedro Montes Cortez d'avoir fait un effort de venir nous voir à visage découvert, d'ailleurs. Merci à Madame Suzanne Chartron pour son soutien technique et son accueil hautement apprécié de notre équipe. À Radio Centre-Ville 102.3 FM, on dit merci de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et je vous donnerai un rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo.
Non-stop sur les Antilles, une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique. Information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Le dimanche 20 mai à 14h, le cimetière de Laval et Magnus Poirier vous invitent à venir accueillir le reliquaire de Sainte Maria Goretti lors d'une messe solennelle qui aura lieu au cimetière de Laval. C'est la toute première fois que le reliquaire de Sainte Maria Goretti quittera le sol italien. De plus, vous pourrez assister à l'inauguration de la chapelle Sainte Maria Goretti et du nouveau mausolée Porta del Paradiso. Le cimetière de Laval est situé dans le quartier Saint-François à Laval, à quelques minutes du nouveau pont de la 25. Pour plus d'informations, visitez le www.cimetierelaval.com.
Salsa, reggae, camba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Sainte-Ville, nous mettons l'accent sur